Pascal Brice est notre invité, il dirige l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Nos questions, Aléa Salamé et moi-même, et les vôtres, amis auditeurs. Bonjour Marion.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous êtes, vous dirigez une association, vous êtes membre d'une association, dites-nous, expliquez-nous.
Bonjour, oui, merci de prendre ma question. Je suis membre d'une association qui s'appelle l'association CALU, qui accompagne les femmes étrangères et particulièrement les femmes migrantes qui ont subi des violences sexuelles. Donc j'avais une question pour Pascal Brice, bonjour.
Bonjour.
Donc on sait que le délai pour déposer l'asile avant de passer en procédure accélérée est de 120 jours. On sait aussi que les femmes et les hommes bien sûr, mais l'association CALU travaille uniquement avec les femmes, subissent durant tout l'exil et même une fois arrivées en Europe différentes formes de violences sexuelles. On sait évidemment que ces violences sexuelles ont un impact traumatique sur elles et particulièrement sur leurs souvenirs. Donc, quand on sait que la demande d'asile est fondée sur la vérité, on peut se demander s'il est juste que les demandes d'asile soient très souvent refusées pour ces femmes quand on sait que leurs souvenirs sont modifiés en raison des traumatismes subis à cause de ces violences sexuelles. Donc moi, ma question, ce serait, est-ce que Pascal Brice pense qu'il serait judicieux d'ouvrir en Europe, et particulièrement en France, parce qu'on parle de la France, des espèces de sas de soins, à la fois physiques et psychologiques, pour permettre à ces personnes traumatisées de se soigner dans un premier temps, et une fois qu'elles vont mieux, de pouvoir demander l'asile en ayant accès à des souvenirs fidèles. Voilà.
Merci beaucoup Marion pour cette question. Pascal Brice vous répond.
Moi je vous remercie madame de cette question parce que la situation des femmes, et nous savons nous, parce que nous les entendons tous les jours, que les femmes sont victimes de violences en tant que femmes, des violences sexuelles dont vous parlez, notamment des viols dans des zones de guerre, mais je pense aussi aux mariages forcés, aux violences conjugales, à des petites filles, des jeunes femmes, 6000 que nous protégeons avec un statut de réfugié contre l'excision. Et nous avons eu une attention toute particulière pour tous ces besoins de protection au titre de l'asile qui sont particulièrement délicats à identifier et à accompagner parce que cela touche à l'intime de ces femmes. Je pense aux mineurs isolés, je pense aux hommes et aux femmes et aux enfants détruits par la torture, je pense aux femmes notamment du Nigeria victimes de la traite des êtres humains, je pense aux homosexuels et aux lesbiennes dont nous devons pouvoir reconnaître le besoin de protection lorsqu'elles sont persécutées dans leur pays. Et c'est donc la responsabilité de l'OFPRA de poursuivre cette action et nous le faisons avec le monde associatif que je salue pour son action, de manière à être en situation d'identifier les personnes qui, notamment les femmes, qui relèvent du droit d'asile. Je veux redire ici qu'il y a le droit d'asile pour des hommes, des femmes qui fuient les persécutions en raison de leur appartenance ethnique, religieuse, de leur engagement politique, de l'appartenance à ce qu'on appelle un groupe social. Par exemple, des femmes victimes de violences dans certains pays parce qu'elles sont adultères, entre guillemets. Elles doivent être protégées par un statut de réfugié ou parce qu'elles fuient des zones de guerre. Mais il est de ces femmes qui sont victimes de ces violences mais qui ne relèvent pas du droit d'asile. Elles donc doivent être prises en charge par ailleurs. Et effectivement, la question que vous posez, qui est celle de la prise en charge, d'abord elle se pose, et je pense que c'est la question clé aujourd'hui, qui est celle de l'entrée dans la procédure d'asile. Le fait que trop de personnes attendent trop longtemps avant de pouvoir accéder à la procédure dans les préfectures, trop souvent à la rue, et effectivement celles, et notamment les femmes qui sont victimes de situations physiques ou psychiques de grande détresse, doivent être mieux prises en charge.
Est-ce qu'il n'y a pas, imaginons, parce que ça existe, des migrants qui partent pour des raisons économiques, qui font la traversée d'une partie de l'Afrique, qui traversent ce pays de la violence absolue à l'égard des migrants qu'est la Libye. Si au départ le motif est économique et qu'à ce titre l'asile n'est peut-être pas une solution pour ces gens-là, est-ce que le fait d'avoir été littéralement massacré par les violences sexuelles et les violences tout court n'ouvre pas le droit à l'asile pour ces migrants-là ?
C'est une question extrêmement délicate et difficile et douloureuse pour nous. Parce que, vous le savez, cela fait plus de 2 ans que nous interpellons en public, parce que nous entendons, nous, depuis 2 ans, le récit de ces personnes qui arrivent en France, qui ont été détruites à travers la Libye. Le droit d'asile s'applique pour des craintes dans le pays d'origine. Nous prenons en compte, évidemment, de la manière la plus attentive possible, ce qui s'est passé dans le parcours, notamment lorsqu'il s'agit de personnes victimes de réseaux de traite, où là, on peut basculer dans le droit d'asile. Mais vous voyez bien que là, nous sommes interpellés, et c'est l'un des aspects sur lequel je considère qu'il y a le droit d'asile. Et moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas chercher, non seulement à biaiser, mais même, par exemple, à renégocier le droit d'asile. Je veux dire, renégocier la Convention de Genève en l'état actuel du monde, je ne le recommande
surtout
à personne.
Surtout pas, oui.
Et puis, donc, il y a au-delà la politique migratoire. Mais il y a, je dirais, entre les deux, des situations de détresse humanitaire qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais qui doivent être prises en charge. Vous évoquez très justement ces personnes détruites dans leur parcours à travers la Libye, mais j'y ajouterais les déplacés climatiques. Donc, je pense que dans la réflexion qui s'ouvre, il y a le droit d'asile et tous les progrès que nous devons faire pour qu'ils s'appliquent mieux dans notre pays en Europe. Il y a la politique migratoire et puis il y a ces situations de détresse humanitaire.
En fait, la Libye est une zone grise, c'est ce que vous nous dites ce matin.
C'est d'abord l'enfer. C'est une zone grise du point de vue du droit d'asile. Il y a des gens qui relèvent du droit d'asile. Vous savez, par exemple, que nous sommes allés protéger au Niger les 25 premières personnes évacuées, des Érythréens, des Éthiopiens, des Soudanais de Libye. Nous les protégeons du droit d'asile. Ils sont d'ores et déjà arrivés en France. Mais d'autres sont détruits, psychiquement et physiquement, par ce parcours, mais ne relèvent pas du droit d'asile parce qu'elles n'ont pas de crainte dans leur pays d'origine. Donc là, il y a une réflexion qui doit s'ouvrir, mais qui ne relève pas au sens strict du droit d'asile.
La parole aux auditeurs de France Inter. Monsieur le maire de Grenoble, bonjour. Éric Piolle.
Bonjour.
On vous écoute. Vous avez le droit aussi de faire le 01 45 24 7000 et de prendre la parole.
Oui, c'est important, je crois, de dire que les collectivités locales, les habitants sur le territoire ont un regard très humain et radicalement différent de la politique qui est mise en place par le gouvernement en ce moment. Je suis là au col des échelles, vous savez, où il y a cette route des exilés et où on montre toute l'absurdité de la politique migratoire actuellement. On est scandalisé en France quand on construit un mur en Hongrie ou en Bulgarie pour repousser les migrants. C'est ce que nous faisons ici. Nous demandons à notre police de l'air et des frontières de prendre des migrants et de les remettre à 200 mètres de la frontière, sur le côté italien, et puis en disant que tiens, ils vont refaire les 6000 km qu'ils ont fait dans l'autre sens pour repartir dans leur pays, alors que l'on sait que cet exil, comme le disait votre invité à l'instant, l'exil aujourd'hui se complexifie parce qu'il y a le dérèglement climatique, parce que les objectifs du millénaire du développement de l'ONU n'ont pas été atteints, parce qu'on n'y a pas mis les moyens, et parce que juste les solidarités aujourd'hui dépassent totalement la dimension politique au sens couleur politique. On ne peut pas laisser mourir des gens dans la neige, de même que nous, dans les collectivités, on ne peut pas laisser des gens qui, de toute façon, sont habitants de notre territoire.
Est-ce que vous avez une question, monsieur le maire de Grenoble, à Pascal Brice, ou souhaitiez-vous simplement témoigner de ce qui se passe et Grenoble, évidemment, de par sa localisation géographique, est un endroit de très forte tension sur la question que nous abordons ce matin?
J'ai deux points. Un, il a répondu juste dans l'intervention précédente sur le fait qu'il y a évidemment la question des réfugiés, mais il y a aujourd'hui la question des déplacés climatiques qui sont l'enjeu des années à venir, les déplacés climatiques et les déplacés économiques et pour des violences internes géopolitiques. Donc là, il y a, je crois, ce travail à faire, mais il vient de le dire. La deuxième chose, c'est sur aussi la dimension humaine de l'accueil. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus prendre ce problème-là comme une usine. Et je crois qu'il y a là une question pour lui, pour dire finalement comment on peut construire de l'accueil à taille humaine qui permette aussi une solidarité directe des citoyens. Parce que si on n'a pas ces solidarités directes, si on fait juste en disant tiens, il faut que tout soit pris en charge par une institution et purement par une institution, on arrive aussi à créer des tensions parce que finalement on n'a plus ce rapport humain direct de se dire bah tiens, j'ai quelqu'un là devant moi qui est en grande difficulté, ben je l'aide sans réfléchir.
Merci Éric Piolle d'être intervenu au micro de France Inter. Un mot Pascal Brice et j'aimerais qu'on retourne au standard.
Je suis heureux de saluer le maire de Grenoble et à travers lui tous ces élus qui font vivre l'accueil dans le pays. Moi, je les vois de grandes villes, petites villes, dans les campagnes. Et je voudrais simplement confirmer effectivement que d'abord, autant les délais d'instruction à l'OFPRA sont désormais très courts, nous sommes maintenant à 3 mois, autant la question continue à se poser de l'accès à la procédure. Trop de gens encore ont des difficultés à accéder à la demande d'asile. Et c'est là où les progrès doivent être encore effectués dans le cadre de la réforme de l'asile qui a été annoncée. La dimension humaine, elle est la nôtre à l'OFPRA. Nous recevons chaque jour 400 personnes. Les officiers de protection écoutent chaque jour 400 personnes faire part de ces récits terribles. Mais la dimension humaine, nous l'avons en partage avec tous les acteurs de l'asile dans ce pays. C'est la force du système de l'asile français. C'est les associations, c'est les bénévoles, c'est les travailleurs sociaux, ce sont les élus. Et donc,
il faut supprimer, une bonne fois pour toutes, le délit de solidarité. Le fait que des citoyens aident et se retrouvent complices ou quasiment trafiquants d'êtres humains parce que ils ont fait preuve d'une humanité élémentaire. Est-ce qu'il faudrait un jour ou l'autre quand même passer à autre chose dans la terre des droits de l'homme?
Moi, je vais vous dire, un délit de solidarité, par définition, ces termes sont tellement antinomiques, ça ne peut pas exister. Donc moi, je vois les situations.
On peut être condamné. Hein.
Je vois les situations. Et moi, je vais vous dire, je suis naturellement, spontanément, évidemment, toujours du côté de celles et ceux qui chez moi, en Loire-Atlantique, à Calais, que je connais bien, vous le savez, ailleurs, sont là pour aider et accueillir. On ne parle pas de gens qui font des trafics. Et puis, évidemment, il s'agit d'autre chose que des personnes, c'est leur droit, qui peuvent être dans des dynamiques politiques, qui parfois alimentent des formes de surenchère. C'est un peu compliqué à gérer, je trouve. Mais toutes celles et ceux qui sont là, notamment dans la région d'où vient le maire de Grenoble, par solidarité, ce sont des acteurs de l'asile.
Léa.
Pascal Brice, deux questions. D'abord, est-ce que la circulaire de Gérard Collomb qui appelle à recenser les migrants dans les centres d'accueil vous a choqué?
Moi, je crois qu'il est normal que l'État veuille connaître la situation administrative des personnes sur le territoire national. Ça, c'est normal. Simplement, il faut que l'accueil inconditionnel soit totalement respecté pour les personnes en situation de détresse. Deux, il faut être dans le respect du travail, des missions des uns et des autres, et notamment, je pense, aux travailleurs sociaux. Et puis, il y a une question de contexte. C'est-à-dire que cette démarche-là, que je crois nécessaire, je vais vous dire pourquoi.
C'est nécessaire, expliquez-le, parce que on a vu les associations qui ont claqué la porte en disant on ne va pas trier les gens dans les centres d'accueil.
Mais bien sûr, c'est pour ça que les questions que j'évoquais se posent de manière très sérieuse.
Vous défendez le gouvernement sur ça? Vous dites s'il est nécessaire de recenser...
Moi, défends l'utilité d'aller s'assurer de la situation administrative des personnes. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans à Calais. Je l'ai fait dans les campements parisiens en 2015. Les situations administratives des gens sont inextricables. La complexité administrative est terrible. Donc être là pour s'assurer de la situation administrative des personnes, et notamment du point de vue de l'OFPRA, les conduire vers le système de l'asile, ça me paraît extrêmement utile. Mais il y a une question de méthode. Il faut le faire dans la confiance avec le monde associatif. C'est l'objet de la concertation que le Premier ministre a ouvert. Il faut le faire dans le respect de l'action des travailleurs sociaux. Et c'est une question de constance, notamment du point de vue de la politique de l'asile. Quand vous êtes dans une situation où aujourd'hui, près de la moitié des personnes qui vont en préfecture demander l'asile se trouvent dans des procédures Dublin. S'ils ont été déboutés ailleurs en Allemagne, moi je trouve ça tout à fait normal. Moi je ne veux pas les réinstruire une deuxième fois leur demande d'asile. Mais certains n'ont fait que laisser des empreintes en Italie. Ils vont être là. On va leur dire, vous allez attendre pendant des mois, on ne sait pas ce qui se passe. Personne n'a envie d'encourager ces personnes. Donc c'est une question de contexte. Soyons irréprochables sur l'asile. Veillons à ce que les missions des uns et des autres soient totalement respectées, l'accueil inconditionnel, et là, il sera totalement, il est normal que l'État veuille s'assurer de la situation administrative des personnes sur son territoire.
Léa.
Deuxième question, est-ce que vous diriez, comme Jacques Toubon ou comme Christian Estrosi, que le gouvernement actuel va plus loin que ce que n'a jamais fait ni la droite ni la gauche sur les politiques migratoires?
Oh, c'est un registre très politique qui ne peut pas être le mien, madame.
Même
ça,
de la part du défenseur des droits?
Moi, ce que je peux dire en tant que patron de l'OFPRA, c'est que il faut encore faire progresser le droit d'asile dans ce pays. Moi, je ne suis pas dans le masochisme. Il se fait de très belles choses dans ce pays. Nous accueillons des fonctionnaires dans les préfectures, à l'OFPRA, des citoyens, des bénévoles, des associatifs, des travailleurs sociaux. L'accueil se fait. Mais les progrès à faire sont tout à fait importants. On le voit, il y a trop de gens à la rue. Il y a trop d'attentes avant de pouvoir accéder dans les préfectures à la demande d'asile. Et donc, moi, je m'en tiens à ce que le président de la République a indiqué à Orléans l'été dernier. 100% asile. Faisons vivre absolument le droit d'asile de manière effective dans toutes ses dimensions. Puis il y a des choix de politique migratoire que je n'ai pas commenté parce que ça n'est pas à l'OFPRA de les mettre en œuvre. Le reste, ce serait un registre trop politique pour que je puisse le commenter.
Tout le monde ne pourra pas avoir la parole, malheureusement. Il y a énormément de questions. Clarissa, bienvenue.
Bonjour. J'ai un commentaire plutôt qu'une question.
Allez-y.
J'apprécie beaucoup ce que dit M. Brice Et notamment les 43% de demandes acceptées dont il parle. Je suis bénévole dans une association à Strasbourg qui aide les demandeurs d'asile et je lui ai déjà dit que sur le terrain, la situation est très souvent très différente. J'ai vu beaucoup de décisions de l'OFPRA et aussi de la Cour d'appel, la Cour nationale du droit d'asile. Et les décisions sont très souvent arbitraires, injustes, rejettent les demandes des demandeurs d'asile toujours avec les mêmes mots, disant que ce n'est pas assez détaillé, c'est pas assez personnel, c'est pas convaincant. Et en gros, leur opposant nous ne vous croyons pas. Ce qui est très traumatisant pour des personnes déjà gravement traumatisées par ce qu'ils ont vécu dans leur pays. Et notamment, c'est très clair dans les entretiens où les traumatismes des gens qui ne leur permettent pas forcément de s'exprimer de la manière dont le souhaiterait l'officiel de l'OFPRA. Voilà.
Bien compris, Clarissa. On transmet le cœur de votre intervention à Pascal Brice.
Moi, je remercie cette dame de cette vigilance et de cette exigence, parce que ça, c'est la responsabilité de l'OFRA, pour le coup. Hein. C'est-à-dire que l'instruction de la demande d'asile se fasse dans des délais rapides, c'est le cas, 3 mois, et se fasse dans le respect absolu du droit et dans l'écoute. Et donc, nous devons encore progresser. Je crois que la preuve est faite que l'OFPRA, qui s'est profondément réformé depuis 4 ou 5 ans, est beaucoup plus dans l'écoute, dans la bienveillance, mais en même temps dans la rigueur. Parce que nous appliquons le droit d'asile, c'est-à-dire qu'il y a un moment, nous décidons. Nous décidons en appliquant le droit. Nous le faisons dans la plus grande bienveillance possible. Nous avons cette attention aux femmes victimes de violences, aux personnes qui...
Mais vos services peuvent dire « on ne vous croit pas à un demandeur d'asile », comme le dit Clarissa.
Non, bien sûr que non. Il y a d'ailleurs souvent un décalage, cette dame le sait, entre le contenu de l'entretien, auxquels d'ailleurs les associations habilitées par l'OFPRA en application de la loi peuvent assister depuis 2 ans, ce qui est une grande avancée, un décalage avec la rédaction des décisions. Donc ça fait partie des progrès qui doivent être les nôtres, mais je veux signaler un progrès considérable. En France, il y a encore 5 ans, depuis toujours, c'est le juge qui décidait les protections. Désormais, c'est l'OFPRA. Et ça, c'est la fin d'une anomalie française à laquelle je tenais beaucoup.
8h55, Pascal Brice, restez avec nous sur France Inter.